France Culture.
Prise de conscience du retrait progressif des États-Unis dans la protection de l'Europe, les pays de l'Union se sont fixés l'objectif de se réarmer, d'accroître leur indépendance militaire. C'est le sens notamment du plan d'investissement Réarmer l'Europe et du livre blanc sur la défense présenté tous les deux par la Commission européenne. Alors faut-il impérativement se réarmer ? La militarisation est-elle l'unique solution face aux menaces impérialistes ? Et quelle place pour les voix pacifistes ? Pour en débattre, deux invités ce soir. Olivier Besancenot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du NPA et ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous avez publié au début du mois d'avril cet ouvrage intitulé « En finir avec les présidents ». C'est aux éditions du Seuil. Face à vous, Guillaume Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien officier et chroniqueur de guerre. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Petite leçon au pluriel sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre ». Celui-ci est publié aux éditions Autrement et c'était en mars dernier. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Nous avons maintenant une stratégie pour réarmer pleinement l'Europe, c'est-à-dire nous rééquiper, retrouver pleinement notre indépendance dans les 5 ans qui viennent.
Alors on se prépare à deux choses, à être fort pour éviter la guerre et à se passer des Américains.
L'économie de guerre telle que considérée aujourd'hui en France, c'est pas une économie de temps de guerre, mais c'est une économie qui se prépare à ne pas subir en cas de crise.
En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien.
On attend qu'on nous fixe le format. Quel volume l'armée française a besoin d'acquérir et dans quel délai ?
Une entreprise, si elle veut faire plus d'armement, elle doit mettre en œuvre d'abord de nouvelles lignes de production, mais elle doit aussi assurer la formation de personnel, c'est du personnel qualifié. Donc la question va être limitée à cela.
Alors le point de départ de cette émission est relativement simple. On constate dans les médias, dans le champ politique par ailleurs, une espèce de consensus sur la nécessité d'une autonomie stratégique en Europe, sur la nécessité du réarmement européen, sur la nécessité aussi de rebâtir une véritable industrie militaire. Est-ce que vous saluez ou regrettez ce consensus, Guillaume Ancel ?
Je ne le salue pas, je l'observe. Je le regrette parce que moi j'ai participé à 4 guerres. Et je ne connais rien de plus épouvantable. Donc, le fait qu'on soit obligé de se réarmer, pour moi, rentre bien justement dans le champ d'une contrainte et pas d'un souhait de société. J'y reprends juste les mots d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, au tout début de la guerre en Ukraine, qui dit « Nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis » pour expliquer le désarmement de la plupart des sociétés européennes et une absence de conscience qu'en fait, la guerre était toujours présente. Mais si je prends le cas de la France, c'est plus étrange parce qu'au fond, c'est surtout parce qu'on a mis le sujet sous le tapis. Mon ami Michel Goya a compté que depuis la guerre d'Algérie, que d'ailleurs on n'avait pas nommé ainsi, la France a participé à 34 guerres, sans jamais le dire. En réalité, nous avons toujours été un peu en guerre. Mais
on parle d'opérations extérieures.
Alors, on a dénommé ça de plein de manières différentes. On aurait même pu dire opération militaire spéciale. Mais en fait, on a toujours été un peu en guerre, sauf que notre société n'avait pas envie de le savoir, parce que pendant 30 ans, on s'est complètement concentré sur notre prospérité. Et ça, pour moi, est une question. Comment est-ce qu'on a pu croire que cette prospérité pouvait assurer d'elle-même sa sécurité ? En fait, on redécouvre, après 3 décennies d'une paix totale, dont on a quand même beaucoup profité, que sa prospérité, ça se défend aussi, et qu'on est obligé de s'investir aussi sur sa sécurité. On adorerait ne pas avoir le faire, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix.
On est obligé, Olivier Besancenot, de se réarmer donc pour reprendre le titre de cette émission ?
Non, je ne pense pas. Je ne dois pas faire partie de ce consensus. Je ne pense pas qu'il faille se réarmer, c'est-à-dire participer à cette course à l'armement, à la militarisation, que par ailleurs, même si ça peut paraître paradoxal, ça n'empêche pas d'aider les populations qui résistent à des invasions. Je pense évidemment à la population ukrainienne, mais on pourrait développer la population kurde, etc., qui a des écarts qui sont sans commune mesure. Quand on prend les montants de la loi de programmation budgétaire militaire, d'ici 2030, on parle de plus de 413 milliards. Quand on parle de la France qui, malgré tout, là aussi, donc c'est un taux en augmentation, hein, la loi de programmation militaire, l'industrie de l'armement qui fait qu'on exporte, je crois que la France est le deuxième pays exportateur qui exporte pour quelque 18 ou 19 milliards. Quand on rapporte ça à l'aide, par exemple, donner à l'Ukraine, en réalité, c'est peanuts. Donc on pourrait parfaitement aider l'Ukraine militairement et s'engager dans un processus de démilitarisation. Je souligne juste deux choses. D'abord, il y a un problème de transparence. Un problème démocratique.
À quel niveau la transparence ?
D'abord, on parle souvent d'estimation, parce qu'il y a le secret militaire qui nous opposait évidemment régulièrement et qui arrange, je pense, une partie de l'industrie militaire, mais pas que. On aurait besoin de savoir, ne serait-ce que pour l'Ukraine, quelles sont les armes qui arrivent, dans quel délai, si oui elles arrivent, pour qui elles vont par ailleurs, mais on peut généraliser la problématique. Et puis je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui correspond au changement d'époque qu'on est en train de vivre, en effet. On a toujours été plus ou moins en guerre, ça je partage ce constat-là. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'on va appeler la période Trump, parce qu'elle est symbolisée par cette élection-là, parce qu'elle cristallise beaucoup de choses. Mais en réalité, on sort d'une phase de développement capitaliste qui a été celle de la mondialisation libérale qui a duré 30 ou 40 ans, qui est en train de se refermer. On rentre, on l'a compris, dans autre chose, qui va être marquée par le protectionnisme, par la guerre commerciale, la compétition économique entre les États. Et pour citer une révolutionnaire qui s'appelait Rosa Luxembourg au tout début du XXe siècle, elle expliquait déjà qu'en général, il y a le prolongement d'une compétition économique sur le terrain militaire. C'est-à-dire que les guerres ne sont en réalité que le prolongement d'une compétition antérieure qui avait lieu sur le terrain économique. Et là, en effet, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est un élément, je pense, tout à fait profond et tout à fait structurel de la période de bascule économique qu'on est en train de vivre.
Plusieurs arguments développés par Olivier Besancenot. Je voudrais que vous répondiez, Guillaume Ancel, au premier d'entre eux. Est-ce qu'on peut aider l'Ukraine sans se réarmer, sans augmenter la part du budget militaire dans le PIB ?
En fait, aider l'Ukraine militairement, aujourd'hui, est un défi, parce que la France, et c'est ma génération qui l'a faite, avait transformé l'armée française en corps expéditionnaire léger pour partir dans des interventions à l'étranger où, malheureusement, Olivier a raison, par manque de transparence totale, il n'y a jamais eu de débat démocratique en France autour de qu'est-ce qu'on va faire au Mali, qu'est-ce qu'on va faire en Afghanistan. Le sentiment que tout ça était décidé par l'Élysée et que les Français n'avaient pas à s'occuper de leurs problèmes de sécurité. Moi, je pense que c'est un sujet dont la société française et européenne doit s'emparer totalement. Ça ne peut pas être le fait de quelques militaires qui se taisent et de quelques politiques qui prendraient des décisions tout seuls dans leur coin, alors que ça a des implications et des conséquences très importantes, y compris sur les finances.
La loi de programmation militaire, pardonnez-moi, elle est tout de même discutée à l'Assemblée nationale. C'est tout de même la représentation nationale qui l'examine.
Oui, alors par exemple, la loi de programmation militaire est très intéressante. On a la guerre en Ukraine, en pleine gueule. Est-ce que dans la loi de programmation militaire, il y a des changements réels par rapport aux lois de programmation précédentes ? Non, parce qu'en fait, l'armée française continue à faire ce qu'elle savait faire auparavant, et surtout pas un combat de haute intensité ou un engagement du type de celui qui existe aujourd'hui en Ukraine. Ça pose question. Ça veut dire qu'on a le sentiment qu'on a des industriels qui déploient tout seuls leur politique et qu'on a une société française qui ne réfléchit pas au sujet de la guerre parce que, globalement, ça n'est pas pour elle. Et ça me questionne parce qu'en fait, c'est d'abord un débat de société avant d'être un débat économique. Je rappelle juste une chose, c'est que le budget des 27 pays de l'Union européenne en défense est 3,5 fois supérieur à celui de la Russie. Ça veut dire que si déjà ces budgets étaient mis ensemble, on n'aurait pas besoin d'aller chercher un financement supplémentaire. Par contre, c'est une autre approche de la sécurité et c'est une approche collective. C'est celle qui nous manque aujourd'hui.
On va y venir, Olivier Besancenot. Est-ce que le seul but, le seul enjeu du réarmement, c'est d'aider l'Ukraine, de venir en aide à la population ukrainienne, ou c'est aussi de se protéger nous-mêmes, d'empêcher la Russie d'aller justement plus loin que l'Ukraine elle-même ?
Non, je pense qu'on prend prétexte, malheureusement, vu d'en haut, de ce qui se passe actuellement en Ukraine pour participer à un processus de militarisation, on l'a compris, auquel s'intéressent les plus grandes puissances économiques du monde, quelles qu'elles soient, intéressées directement ou non à ce qui est en train de se passer en Ukraine. C'est pour ça que je l'inscris dans un changement d'époque. Je pense que, une fois de plus, la militarisation occupe une fonction déterminée dans l'histoire du capitalisme et l'histoire du capital. Le capitalisme a pour lui, ça c'est Marx qui l'avait vu dès 1848, il était assez devant en la matière, puisque c'était avant les grandes crises du système capitaliste, que le système capitaliste aurait pour lui, à chaque fois qu'il y aurait une crise un peu systémique, de chercher à réinventer un nouveau moyen d'accumuler les richesses. Et donc à chaque fois qu'il y a un nouveau régime d'accumulation capitalistique dans l'histoire du capitalisme, il y a une phase accélérée de militarisation qui se traduit en plus par des possibilités quand même de plus-value. c'est-à-dire de profit. Il y a quand même une industrie de l'armement. Il y a une industrie de l'armement en France, d'où le problème aussi de l'opacité. Mais apprendre que ça sur les 18 ou 19 milliards par an d'exportation d'armes de l'industrie de l'armement française, on peut estimer que là-dedans, il y aurait largement de quoi prendre, par exemple, ce qui serait nécessaire pour l'Ukraine. Et peut-être, je ne sais pas, je prends ce seul exemple, d'armer un peu moins des grandes puissances comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou encore Israël, quitte à choisir.
Mais pour bien comprendre ce que vous dites, cela signifie qu'il n'y a pas, selon vous, de menace russe au-delà du territoire ukrainien, au-delà, j'allais dire même, de l'Europe extrême-orientale ?
Ben, moi, je prends les choses en temps et en heure. Là, ce n'est pas une menace, c'est une guerre qui est en train de se mener depuis trois ans, qui est une guerre d'invasion et qui est pour moi une guerre impérialiste, je l'appelle comme ça. Il n'y a pas que l'impérialisme nord-américain, c'est une guerre impérialiste. Le sort de ce qui se noue actuellement en Ukraine aura un impact évidemment sur l'ensemble de la région, y compris en Europe. Donc si on veut raisonner, j'allais dire en temps et en heure, et dont l'Ukraine a stoppé cette invasion, c'est-à-dire qu'on ait la paix, mais une paix juste, mais on pourrait démultiplier les exemples. Je pars de l'idée que si on aidait le droit des peuples à l'autodétermination dans leur lutte contre un certain nombre de régimes autoritaires ou de dictatures, ça irait mieux sur la planète. Un monde débarrassé politiquement de Netanyahou, d'Erdogan, par exemple, et de Poutine, je pense que ça serait un pas vers la paix.
Guillaume Ancel, est-ce que vous êtes d'accord, vous, sur le fait qu'il n'existe pas objectivement, si c'est possible de le caractériser ainsi, de menace russe à proprement parler pour l'espace d'Europe occidentale ?
Je ne rejoins pas Olivier sur ce point parce qu'effectivement, il y a un phénomène aujourd'hui majeur en termes de géopolitique, c'est la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais derrière, il y a une inquiétude sourde que je partage avec la plupart de mes homologues européens, c'est le fait que la Russie ne s'arme pas seulement pour la guerre en Ukraine, et qu'en particulier en ce moment, elle fait un effort, en ce moment, ça fait depuis 3 ans, hein, un effort d'armement considérable, c'est le tiers de sa dépense publique. Ça ne correspond pas seulement à l'attaque contre l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a manifestement des visées de l'empire russe qu'a transformé Poutine. Hein. Poutine est le chef d'une mafia qui s'est emparée de la Russie et qui vont bien au-delà de l'Ukraine. Et d'ailleurs, Poutine l'a déjà affiché. Il suffit de l'écouter. Il a menacé 130 fois l'Europe d'attaque nucléaire en 3 ans. Poutine a déjà menacé les pays baltes en disant qu'il y avait des minorités russophones qui étaient soumises à des nazis. On se souvient que c'est comme ça qu'il avait commencé la guerre en Ukraine et qu'une partie de la Pologne lui appartenait. Donc pour moi, il y a une menace dans la Russie de Poutine qui, de toute façon, tant qu'il sera au pouvoir, nous ne pourrons pas espérer une paix durable. Donc on a une question politique qui va bien au-delà de l'Ukraine. On a l'Ukraine aujourd'hui, Olivier a tout à fait raison, mais on est obligé de réfléchir à ce qui se passe demain pour nous si la Russie continue à croire que ses frontières sont là où ses chars peuvent le mener. Parce que c'est ça que fait Poutine aujourd'hui.
Est-ce que vous partagez, Olivier Besancenot, l'idée selon laquelle, au fond, les populations se sont déshabituées à l'idée même de guerre, à l'idée même que leur société pouvait un jour, de nouveau, se retrouver en situation de guerre ?
J'imagine que vous parlez des nôtres.
Des nôtres, notamment, bien sûr. Je parle notamment des sociétés européennes, bien sûr.
Vu de notre point de vue, probablement, à chaque fois qu'elles se rapprochent, c'est même une dichotomie par rapport à toutes les guerres effectives auxquelles on a participé pendant 30 ans, qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne nous montrait pas, je ne pourrais pas le dire. Mais quoi qu'il en soit, on est confronté à cette réalité qui nous rappelle à la réalité du monde. Parce qu'en effet, ce qui se passe en Ukraine a des répercussions, mais pas pour l'avenir. D'ores et déjà. Voilà, alors il y a cette interprétation qui est possible, pourquoi pas, moi je suis pas spécialiste militaire. Il y en a une autre aussi, c'est de se dire que tous ces moyens développés financièrement dans l'armement côté russe, c'est aussi parce qu'ils sont rentrés contre toute attente dans un bourbier, et que ce bourbier est lié aussi à une résistance d'une population qui connaît la réalité de la guerre, qui est précisément la population ou les populations ukrainiennes. Parce que je rappelle qu'il y a des populations russophones qui sont engagées dans la résistance ukrainienne contre l'invasion russe. Et que du point de vue même de l'armement, eh ben, tout ne dépend pas que de l'aide extérieure. Hein, tout le monde a constaté, par exemple, que les drones, c'est les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui étaient aux avant-postes aussi de ces actes de résistance extrêmement concrets. Et que, vu de notre côté aussi, tout ne se résume pas à de l'aide militaire. Je prends, par exemple, cette arme massive qu'on a sous la main, qui sont quand même les avoirs des oligarques russes dans l'Union européenne. On parle de plus de 230 milliards d'euros. Étrangement, la classe politique est quasiment unanime aussi sur la question pour dire qu'il faut toucher éventuellement ce qui pourrait engendrer des bénéfices, mais pas aux avoirs eux-mêmes. Avec un argument massu qui est de dire, si on touche à leurs avoirs, il va y avoir des ripostes et ça va enclencher une escalade. Bon, mais c'est déjà le cas sur le terrain militaire. Et pourquoi il n'y a que sur ce terrain-là qu'on s'interdirait de pouvoir précisément taper du poing sur la table. Et ça, ça participe à l'aide à la résistance. Nous, on est une petite organisation, mais on travaille avec une organisation ukrainienne qui s'appelle le Mouvement Social et qui réclame précisément cette aide-là. Qu'on fasse incursion dans ce droit de propriété capitaliste et qui fait qu'il faut s'en prendre aux oligarques russes. Oui, il y aura des répliques contre d'autres capitalistes, probablement des capitalistes français, mais quand j'entends que des fois on est prêt à envisager d'aller plus loin, voire pourquoi pas envoyer des troupes au sol, c'est-à-dire que même philosophiquement, dans des non-dits, on envisage cette possibilité-là, bah peut-être qu'avant, il faut imaginer de pouvoir toucher à ces avoirs-là. Enfin, c'est qu'une suggestion.
Guillaume Ancel, une réaction sur son point. Est-ce qu'on a tendance, dans le fond, à circonscrire trop vite le champ des outils disponibles, à les limiter à la question militaire ?
Alors, surtout à la question des armes. Et Olivier a raison, avant de vouloir mettre des milliards dans les armes, il faut réfléchir à la manière dont on arme une société. C'est l'objet de mon livre. C'est que, en fait, la première notion dont on a besoin, c'est l'esprit de résistance. Si une société n'a plus envie de défendre la paix, le respect du droit, qui aujourd'hui, c'est le droit qui est le plus mis en cause par, bien sûr, Vladimir Poutine, mais aussi par un Donald Trump et un Benjamin Netanyahou. Et c'est ça qui met en danger le fondement même de nos sociétés, qui était sur le respect partagé du droit. Donc si on n'a pas cette capacité à vouloir se défendre, si on a seulement peur quand on parle de guerre, parce qu'on ne comprend plus ce que c'est, à ce moment-là, le risque est très grand. Mais avant de se réarmer, il faut surtout que notre société s'empare de ce sujet et réfléchisse à ce qu'elle veut faire et ce qu'elle est prête à sacrifier sur le sujet avant de se dire on va acheter telle ou telle arme. Pardon, on n'est pas là pour faire ses courses. On est là pour protéger une société, la protéger, mais pour protéger quoi ?
C'est ça, défendre la paix sans avoir peur de se battre ? C'est ça l'intitulé, justement, la raison même du titre de votre ouvrage ?
Oui. Pour moi, ce qui est crucial, c'est que nos sociétés qui ont cru pendant 30 ans qu'elles étaient exemptées de guerre, qui ont même cru que la guerre, ça ne concernait plus que les pauvres et ceux qui habitaient le plus loin possible, comprennent que, en réalité, c'est une question qui nous concerne tous et que c'est très bien de s'être concentré sur notre prospérité, mais que maintenant, on a cette question de sécurité. Je vais prendre un seul exemple. La construction européenne, qui pour moi est remarquable du point de vue de la prospérité, qui nous a assuré une zone extraordinaire pendant 3 décennies. Mais elle ne s'est jamais occupée de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est un club de commerçants. Et quand on lui parle d'une Europe de la défense, bah, elle ne peut pas agir, puisqu'en réalité, elle n'a aucune légitimité, elle n'a aucune compétence réelle, sauf dans un domaine, celui de l'industrie de la défense. Mais c'est quand même bien limité. L'industrie de la défense ne résume pas la question de se défendre en soi et surtout défendre les valeurs et le droit auquel on est attaché.
Qu'est-ce que vous pensez, Olivier Besancenot, de cette idée là aussi que l'on retrouve absolument partout dans les médias, dans le champ politique, idée selon laquelle, dans le fond, il faudrait se réarmer pour protéger, pour maintenir la paix? C'est presque un élément de langage, j'allais dire un raisonnement, mais qu'est-ce que vous pensez justement de ce raisonnement-là?
Dès lors qu'on le prend abstraitement, en effet, on va pas très loin. Il faut prendre la réalité des guerres telles qu'elles sont et telles qu'elles se développent. Peut-être que faut aussi se vacciner contre le fait de devenir cynique de génération en génération. Et je pense qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui arrivera en disant bah, « Nous, on veut que l'argent aille pour l'école, aille pour ceci, pour nos besoins sociaux plutôt que pour les guerres. » Moi, j'ai commencé à militer avec cet élément en tête, hein, plus d'argent pour l'école plutôt que pour la guerre du Golfe, par exemple, qui était aussi une des réalités du visage de la politique française à l'extérieur. Hein. On pourrait développer sur, y compris la France-Afrique, et ce que ça peut signifier, y compris ce que signifie le fait que en France, pendant des décennies, avec l'argent de nos impôts, on a permis aussi à l'industrie de l'armement de réaliser de copieux bénéfices, Dassault et quelques autres, tout ça dans une opacité non seulement savamment organisée, mais avec un argument fatal qui est celui du secret militaire systématiquement. Donc évidemment d'accord pour renclencher un débat démocratique et collectif sur ces questions-là, mais je pense que un projet d'émancipation tel que je le défends, c'est une perspective en effet de paix, mais qu'on n'est pas naïf. Voilà, on est dans la société telle qu'elle est. Moi, j'appartiens à un courant qui, par exemple, lorsque les Kurdes avaient besoin d'armes pour résister aux assauts de l'État islamique à Kobané, était pour que ces armes puissent arriver en temps et en heure. Mais une fois encore, il y a une disproportion totale entre cette aide qui pourrait être nécessaire et ce que représente le processus global de militarisation. C'est pas l'économie de guerre, c'est pas vrai, c'est excessif complètement de le dire parce que ça correspond pas à ça. Mais on prend prétexte du côté des plus puissants de ces conflits pour militariser un petit peu plus le capital. Et ce cours-là, je le combats, et je le combats avec force, parce que ça, c'est pas de la guerre qui va nous préparer à la paix. C'est de la guerre qui va nous préparer à plus de guerres et à des catastrophes. Voilà, et c'est ça qui est en train de changer aussi. Au-delà, en effet, d'une part d'hypocrisie peut-être communément partagée, soit, mais il y a quand même l'élément qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'on a des guerres locales de très, 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 très grande intensité et qui peuvent très, très vite mal tourner. On pense notamment à la question nucléaire. Là, je veux dire, ce qui s'est passé également en Ukraine avec l'invasion russe, ça a été aussi cet argument développé par Poutine, qui, je crois, nous a tous refroidis en disant qu'à un moment donné, tout ne peut pas être que des réponses militaires. Il faudra bien des réponses politiques.
Sur la question de l'économie de guerre, hein, c'est notamment ce que précisent également beaucoup d'historiens, de spécialistes. J'en cite un parmi d'autres, Robert Franck, il est historien, il s'exprime dans Le Monde et dit « On a tort aujourd'hui d'évoquer une économie de guerre. Celle-ci implique une mobilisation totale des ressources humaines, financières, industrielles au service d'un conflit en cours. Les dépenses militaires représentent entre 15 et 25% du PIB en 14-18 et 35% en 39-45, avec un ratio actuel de 2% qui pourrait passer à 3,5 en 2030. Nous en sommes bien loin. » Fin de citation. Guillaume Ancel, est-ce que vous-même, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut se réarmer, non pas tellement pour mener un conflit d'une manière directe, mais dans le fond, d'abord et avant tout, pour dissuader l'ennemi de nous parvenir?
Alors, d'abord, il faut être réaliste face à la situation, parce que le mot « guerre » est utilisé à toutes les sauces par une génération qui n'a aucune connaissance de la guerre.
On parle même de la guerre sanitaire ou de la guerre contre l'endettement.
Moi, je suis désolé, j'ai été très choqué, comme la reine d'Angleterre, quand le président Macron a dit « nous sommes en guerre » au moment de l'épisode du Covid. Ben non, c'est pas une guerre. Voilà, une guerre, c'est différent. Une guerre, c'est un endroit où on tue volontairement et on détruit volontairement pour faire plier l'autre. C'est pas ça, le Covid. Donc là, la menace de guerre, pour moi, aujourd'hui, elle est réelle, mais elle nécessite de l'approcher avec une forme de rationalité et surtout l'accord de notre société. Or, aujourd'hui, pour faire la guerre, certes, nous avons besoin de moyens, mais nous ne sommes pas en économie de guerre. La Russie est en économie de guerre. La Russie de Poutine, elle dépense un tiers de sa dépense publique uniquement pour se réarmer et faire la guerre.
On est dans les proportions décrites par Robert Franck.
Nous, aujourd'hui, nous sommes menacés. Ce qui n'a rien à voir, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à réagir intelligemment pour justement dissuader une guerre. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait pas de guerre contre la Russie.
Mais donc, il faut se réarmer pour ça ?
Alors, se réarmer, c'est qu'une partie. Ça n'est qu'une partie du sujet. Par exemple, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a plus vraiment de lien entre une petite armée professionnelle en France, qui est techniquement très pointue, très bien entraînée et très bien équipée, mais qui est minuscule, et puis une société française qui ne parle plus à son armée et dont l'armée ne lui a jamais quasiment parlé, mais qui ne sait pas de quoi on parle. On a besoin d'un maillon manquant aujourd'hui, un chaînon, pardon, manquant, c'est le mot que je cherchais, entre la société et son armée, juste pour comprendre de quoi on parle. Par exemple, quand Poutine nous menace d'une attaque nucléaire, en fait, 99% des gens en France ignorent qu'une arme nucléaire n'est pas une arme de guerre. C'est un système de destruction massif. Celui qui l'utilise engendre, déclenche un suicide collectif. Est-ce que Poutine a envie de se suicider ? À ma connaissance, non. D'ailleurs, sinon, il ne nous aurait pas menacé de 130 fois avec ce truc. En fait, l'utilisation de l'arme nucléaire n'a aucun sens, sauf à en finir avec notre planète, mais ça, c'est un autre projet. Par contre, si on n'a pas de système de dissuasion nucléaire, on peut, sous la contrainte, la menace d'un autre, céder. Mais quand on a des armes nucléaires, et c'est le cas de la France, on ne peut pas céder. On peut ne pas céder, mais par contre, la possession d'une arme nucléaire n'a jamais dissuadé d'être attaqué de manière classique. On l'a très bien vu au Proche-Orient. Regardez, Israël dispose de 30 armes nucléaires. Est-ce que ça dissuadait l'Iran de lui envoyer des salves de missiles ? Et non. Donc, une arme nucléaire, contrairement à ce que raconte le Rassemblement national, n'a jamais empêché des guerres classiques. Et ça, c'est un des sujets dont il faut qu'on comprenne pour pouvoir réagir intelligemment.
Je reviens, Olivier Besancenot, sur le lien entre l'armée française et la population française. Est-ce qu'il faudrait, comme le suggère Guillaume Ancel, est-ce qu'il faudrait acculturer un peu mieux, un peu plus, la population française aux enjeux stratégiques et militaires ? Je vois hésiter sur cette question.
Non, je vois hésiter parce que je renverrai pas la balle dans notre camp à nous. C'est quand même un peu facile. Cette opacité, personne ne l'a voulu dans la population. Ce secret militaire, personne ne l'a souhaité. On est tous témoins, par exemple, des voyages présidentiels à travers le monde où on envoie, outre quelques, dans la délégation, quelques représentants du CAC 40, d'éminents représentants de l'industrie de l'armement pour faire de copieux contrats. Ça, c'est fait pour vous écœurer. Donc, que ça soit un débat politique et public, oui, bien sûr, qu'on s'en empare. Oui, bien sûr, mais je crois pas que ce soit le problème fondamental du moment. Là, on paye une stratégie dans laquelle, je crois, les différents gouvernements des plus grandes puissances sont en train, tacitement de jouer avec une entente tacite, avec des intérêts complètement différents, mais qui renvoie, je crois, à la période dans laquelle on est en train de vivre. Le capitalisme qu'on est en train de vivre est une période de capitalisme qui va être une période de capitalisme prédateur. Enfin, quand on voit la scène surréaliste de cette espèce de négociation à distance entre Trump et Poutine pour savoir comment se partager l'Ukraine sur le dos des peuples, on peut imaginer que là aussi, la population n'est pas suffisamment active pour faire défendre ses intérêts. Mais je crois que le problème est inverse. Il y a une partie de la classe politique, puisque celle que je connais, moi je ne suis pas un expert militaire, mais une partie de la classe politique française, parfois même à gauche, qui pense les enjeux géostratégiques en oubliant les populations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait, nous, face à Poutine par rapport à l'Ukraine ? En oubliant qu'il y a des populations en Ukraine, qu'elles se battent, qu'elles ont surpris dans leur capacité de résistance tous les pronostics politiques et militaires, y compris, à mon avis, ceux des États-Unis à la base. Donc, là encore, c'est un élément qui, de toute façon, est toujours extrêmement présent et qui sera invité d'une manière ou d'une autre. La question, c'est comment on politise cette discussion et comment on essaie de l'amener. Moi, je pars de l'idée que ce cours de la militarisation est quelque chose qui nous emmène vers la catastrophe. Je pense qu'en effet, l'équilibre de la terreur, là, pour le coup, en effet, du point de vue nucléaire, non seulement n'est pas efficace, mais même politiquement, c'est terrible. Relisez Gunther Anders, par exemple, philosophe qui, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, évoquait déjà après Nagasaki et Hiroshima, l'idée qu'on aurait une vie fantomatique. C'est son expression, c'est-à-dire que suspendu un peu au-dessus de nos existences comme une épée de Damoclès, on aurait l'idée qu'il y a la bombe qui peut tout détruire. Ça sert à inviter extrêmement violemment dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine. Et je crois que ça, c'est l'occasion de se saisir des débats peut-être à la hauteur morale de ce qu'étaient ces générations. Je parle de Gunther Anders, on pourrait parler de George Orwell, qui disait ça c'est un problème, il faut contre vents et marées enclencher un autre processus qui est celui de la démilitarisation, ce qu'empêchait pas par exemple George Orwell d'être du côté des résistances qui s'opposaient, qui parfois réclamaient des armes. Donc c'est une ligne de crête, j'en suis conscient, hein. Ça peut paraître comme une contradiction, mais quand on essaie de raisonner de manière globale, c'est en effet un débat politique qui n'est pas d'abord économique, qui n'est pas d'abord que militaire, mais qui est d'abord un débat politique.
Guillaume Ancel.
Une journaliste m'a posé un jour cette question à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'a beaucoup déstabilisé. C'était une très bonne question. Est-ce qu'avec la force d'intervention militaire qu'on est en train de préparer, si un jour il y avait un accord de cessez-le-feu en Ukraine, pour aller garantir cet accord du côté ukrainien. Est-ce que si cette force était intervenue, quand on a été prévenu par les Américains, on a eu 3 mois d'avance avant le déclenchement de la guerre en février 2022, si cette force était intervenue, est-ce qu'elle aurait pu empêcher la guerre ? Eh bien, je crois clairement que oui, que si on s'était préparé psychologiquement au fait que pour défendre la paix, on était prêt à envoyer une force militaire en Ukraine, simplement stationnée en Ukraine. Elle n'a pas besoin de se battre contre la Russie. Il y a probablement 9 chances sur 10 pour que même Poutine, qui n'a pas de marche arrière, ait hésité à s'attaquer à une force qui était beaucoup plus importante que celle qu'il pouvait aligner.
L'Ukraine a largement souffert de notre atonie collective, vous
voulez dire ? Mais bien sûr, surtout de notre retard. Regardez le temps qu'on a mis à chaque fois pour aller les soutenir, comme si on était éberlués de ce qui se passait, alors que tout ça était préparé depuis des mois, voire des années. Donc c'est notre lenteur de réaction qui est liée à notre absence de culture militaire. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a plus que 3% de la population qui a une culture militaire. Il y a 30
ans... C'est quoi, pardonnez-moi, une culture militaire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Une culture militaire, c'est juste une connaissance des sujets militaires, de savoir de quoi on parle. Ça ne veut pas dire aimer la guerre ou pas l'aimer. Ça veut dire simplement de comprendre de quoi on parle. De comprendre que quand un Benjamin Netanyahou nous dit qu'il fait des bombardements ciblés au Proche-Orient avec des bombes d'une tonne, bien c'est un mensonge. Parce qu'une bombe d'une tonne, c'est fait pour dévaster un immeuble de 3 étages. Et que par conséquent, on ne fait pas de frappe ciblée avec ce genre d'armement. C'est ça, avoir une culture militaire. C'est pour ça que je suis régulièrement invité dans les médias.
3%, j'allais dire, je trouve ça presque beaucoup pour savoir moi.
C'est permettre aux gens de comprendre de quoi on parle. 3%, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 30 000 personnes par an qui passent, en gros, dans un métier proche ou dans un métier militaire, et qui ressortent avec une forme de culture. Alors que du temps du service militaire, que je ne regrette absolument pas, on avait 30% de la population française qui savait de quoi ils ressortaient quand on parlait du domaine militaire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils étaient pour ou qu'ils étaient contre, mais ça veut dire qu'ils savaient de quoi on parlait. Aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est simplement de savoir de quoi on parle pour ne pas avoir peur quand on nous parle de cette guerre en Ukraine. La peur est notre pire ennemi.
C'est nécessaire, c'est important pour vous, Olivier Besancenot, un service national universel, peut-être pas dans la forme existante, mais du moins un moyen pour tenter de mobiliser, là encore, les populations sur les questions militaires au sens large, et d'ailleurs pour une durée indéterminée.
Non, j'appartiens pas à cette famille politique qui voit plutôt dans toutes ces versions, en général, des sources d'embrigadement de la jeunesse, bien plus que des questions qui sont celles précisément de la politisation de cette discussion-là. Voilà, donc pour une fois, je dois probablement faire partie de la majorité et des 97% dont on parle.
On vous y retrouve.
Et pourtant, je m'autorise à avoir un point de vue qui cherche à être politique sur la question, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel on est et à quoi sert et la militarisation et les armes et les stratégies qui sont développées, sans être naïf, en effet, de ce qui se passe, c'est-à-dire avec une réponse internationaliste, j'insiste là-dessus, internationaliste, c'est-à-dire comprendre l'issue du monde par-delà les frontières, en comprenant ou en cherchant à comprendre que le sort du combat ou de la résistance d'un peuple aura des incidences pour nos propres combats à nous, et pas penser que les frontières nous protègent de quoi que ce soit, y compris dans ce domaine-là.
J'aimerais vous faire entendre une archive, elle date de 1981. On était sur Antenne 2, le 25 octobre exactement, dans une émission présentée par Christine Ockrent.
Manifestation pour la paix et le désarmement à Paris, succès limité.
Plus de combats de France, c'est la vie qui doit triompher.
Les jeunes communistes, voilà, pensent qu'il faut que tous les gouvernements, sans exception, notamment les gouvernements américains et les gouvernements soviétiques, négocient et s'entendent pour désarmer. En même temps, les jeunes écoutent et voient et s'aperçoivent qu'aujourd'hui, le gouvernement américain a décidé de relancer cette escalade dangereuse pour les peuples, l'escalade aux armements, notamment en construisant la bombe à neutrons.
Nous disons non, la guerre n'est pas fatale. Tous les conflits, parce qu'il y en a, il y en aura, peuvent être réglés autrement que par le recours aux armes et à la guerre.
On a bien compris, Olivier Besancenot, que vous n'étiez pas un pacifiste au sens strict du terme. Néanmoins, comment est-ce que vous expliquez que dans la culture politique française, dans le paysage même politique, le pacifisme comme mouvement est pratiquement disparu? On n'entend pas aujourd'hui de voix pacifiste.
Je regrette d'avoir intériorisé probablement le rapport de force et l'évolution du monde à ce point-là. En effet, de ne pas être capable de vous dire ouvertement « je suis pacifiste », même si je suis pour la paix. Mais bon, trouver quelqu'un qui va vous dire « je suis contre la paix », ça va être compliqué de nos jours. Je suis contre la militarisation, je l'affirme haut et fort. Je suis contre ce processus de court à l'armement, tout en étant solidaire de la résistance des peuples. Mais je crois en effet qu'on a perdu sur ce terrain-là aussi tous ces combats qui ont été menés par des générations. Là, vous preniez l'archive de 80, mais on pourrait prendre toutes ces générations qui se sont additionnées depuis l'après-Seconde Guerre mondiale en particulier, et qui réclamaient en effet des traités de non-prolifération des armes, d'arrêt de sortie de l'arme nucléaire, qui réclamaient, qui prenaient la paix avec des générations qui, au moment de la guerre du Vietnam, par exemple, ont lutté pour cette paix-là. Et quelque chose qui, avec le temps, a tendance à être mal vu, voire balayé d'un revers de la main. Maintenant, on y voit souvent cette espèce de culture un peu pacifiste, mal dégrossie, un peu love and peace, qui est souvent décriée, mais quitte à choisir, même si c'est pas moi, je peux pas mentir, je peux pas me travestir, je préfère ça plutôt qu'au discours du moment.
On a aussi le sentiment, parfois, Guillaume Ancel, que lorsque des responsables politiques défendent un discours pacifique, en fait, en creux, ils prennent le parti de l'adversaire, le parti de la Russie ou des intérêts de la Russie, lorsqu'il s'agit, par exemple, du cas spécifique de la guerre en Ukraine.
Oui, parce que tout dépend du moment où on se situe. Là, quand on est en 1981, dans l'archive qu'on a citée, on est encore à la fin de l'affrontement entre l'Union soviétique et puis un bloc occidental. Et il y a une peur de la guerre et on voit bien qu'on est à une surmilitarisation de l'Europe notamment, qui flanque la trouille à tout le monde, surtout quand on parle d'armes à neutrons, c'est-à-dire qu'on ferait des batailles avec ces trucs qui juste détruiraient toute vie sur Terre. Et puis, arrive le moment de la fin du mur de l'Est qui s'effondre, de l'Union soviétique qui s'effondre, et on a cru réellement que nous ne serions plus confrontés à la guerre. Et tout le monde s'en réjouissait en Europe. C'est ça qui explique la démilitarisation et aussi pour moi l'extinction en partie des courants pacifistes, parce qu'en fait, il n'y avait plus de menace immédiate en Europe. On a un peu occulté ce qui se passait à l'extérieur, parce que des guerres, il y en a eu en permanence. Mais aujourd'hui, on renoue malheureusement avec la guerre. On comprend que c'est pas nous qui décidons qu'il y ait une guerre ou pas. Et c'est pour ça que le mouvement pacifiste, à mon avis, a du mal à s'exprimer dans ce contexte-là. Je voudrais citer Ségolène Royal, qui était avec moi sur un plateau sur la guerre en Ukraine, et qui dit on peut arrêter la guerre, il suffit d'aller voir Poutine. Bon, bah, on en a eu l'expérience tragique avec Donald Trump. Bah oui, ça suffit pas. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'en face de nous, on a quelqu'un qui ne réagit qu'à la force. Donc comment est-ce qu'on lui oppose une force suffisante pour que, enfin, il soit obligé de négocier.
Un discours qu'on entend beaucoup plus, mais cette fois au cœur même de la société, c'est l'idée selon laquelle, dans le fond, on privilégie aujourd'hui les dépenses militaires parce qu'il existe une menace peut-être objective, aux dépens d'autres champs de politique publique, aux dépens de la lutte contre le réchauffement climatique, aux dépens du soutien de nos hôpitaux. Est-ce que, j'allais dire, cet arbitrage-là, ce besoin d'arbitrage et donc de transparence sur ces questions, est-ce que vous les comprenez, vous, Guillaume Ancel, en tant qu'ancien officier ?
Je les regrette. Je les regrette parce que la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les inégalités sociales dans nos sociétés prime. Mais quand on est face à une guerre, le problème, c'est que le danger est immédiat. Et que du coup, à un moment...
On pourrait vous opposer qu'en matière de réchauffement climatique également.
Bien sûr.
C'est pour ça que je mets les deux sur le même plan.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas tout faire. Et on voit bien que cette question de la menace militaire occulte les autres questions qui sont pourtant cruciales. Et que tout ce qui est tiré aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, en termes de missiles, de bombes, d'explosifs, mais c'est même plus contre le développement durable. C'est une pollution de l'ensemble de la société qui va devoir vivre après dans un terrain qui a été entièrement miné et engagé par toutes ces saloperies qui ont été répandues sur le champ de bataille. Pour les Ukrainiens, ça va être l'enfer. Moi, ma première opération était au Cambodge. Après 20 années de guerre, il a fallu plus de 20 années pour rendre simplement le territoire fertile, pour pouvoir s'y engager sans avoir peur de sauter sur une mine. La guerre est une saloperie. Et ça, il faut que tout le monde en ait conscience. Le sujet des militaires, c'est de l'empêcher. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui pour nous. Et à mon avis, là, on ne prend pas la bonne direction, c'est qu'on continue à la réfléchir au niveau de chaque nation qui constitue l'Europe, alors que c'est un sujet collectif. C'est un sujet international. L'échelle, elle est européenne. Elle n'est plus à la hauteur d'une puissance moyenne.
Deux chiffres, Olivier Besancenot, pour vous permettre de réagir. Et un sondage organisé par la revue en ligne Le Grand Continent. 62% des Italiens interrogés estiment qu'il existe des dépenses publiques plus urgentes que la défense, contre une moyenne de 34%, c'est presque deux fois moins, parmi la sélection de pays de l'Union européenne concernés par cette même enquête. Fin de citation. Comment est-ce que vous expliquez que, dans le fond, la société française ne se pose pas ces questions d'arbitrage en matière de politique publique?
Je trouve que c'est sévère de dire qu'on ne se la pose pas. On se la pose, je crois, en permanence, régulièrement, ces dernières années, pour savoir précisément...
On l'a dit, sur la question de la défense, il y a un consensus qui est en tout cas facialement important.
Du point de vue de la classe politique. Mais je crois qu'il faut différencier quand même la classe politique de ce qui est présent dans la société. Je crois que par le bas, il y a toute une série de discussions qui consistent précisément à dire que quand on parle de plus de 413 milliards d'ici 2030 de loi de programmation militaire, c'est beaucoup d'argent. C'est le seul ou un des rares budgets qui augmente de 40%, que les exportations d'armes ont augmenté aussi de 40%. Trouvez-moi des budgets où on pète les scores à ce point-là. Bah, pas tous ceux qu'on a énumérés. Et ça, on a aussi des yeux pour le voir. Et je crois que là, il faut vraiment distinguer le haut du bas. Et c'est vrai de manière générale. Je crois qu'il faut penser le monde. Mais quand on pense le monde, il ne faut pas penser que du point de vue des états-majors, mais du point de vue des populations. Et du point de vue des populations, eh ben, il y a aussi des populations qui aspirent à l'émancipation et qui réclament de l'aide. Et c'est à cette aide-là qu'il faut répondre. Une fois encore, il y a des milliards qui volent au-dessus de nos têtes. L'aide militaire dont on parle pour l'Ukraine, selon les estimations, puisque c'est toujours l'opacité, on parle de 1, 2 à 3 milliards. C'est quoi par rapport à la loi de programmation militaire que j'évoquais, par exemple? On peut parfaitement démilitariser drastiquement et être à la hauteur des rendez-vous solidaires, je crois, que la période nous impose.
Merci à tous les deux, Olivier Besancenot, membre du NPA, ancien candidat à l'élection présidentielle. Le titre de votre dernier ouvrage, En finir avec les présidents,
c'est les éditions
du Seuil.
Sans les armes,
on l'a bien compris. Et Guillaume Ancel, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons au pluriel sur la guerre, Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, c'est aux éditions Autrement. Merci encore à tous les deux.